Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Cette semaine, dans Des clés pour vivre, je reçois frère Jean-Marie Guelette, professeur à l'Université catholique de Lyon, docteur en médecine et en théologie, auteur de nombreux ouvrages. Bonjour frère Jean-Marie Guelette. Alors on va parler aussi de cette question peut-être de l'épreuve et particulièrement de l'épreuve aussi de la maladie dans ces 7 premières minutes. L'expérience de la personne qui est confrontée à la maladie et parfois cette maladie grave. Comment en parler, bien en parler et donner des clés pour ceux et celles qui vont donc vous découvrir et que vous allez donc accompagner tout au long de la semaine.
L'expérience de la maladie, je crois qu'elle est, d'abord une expérience de rupture dans le temps. On a l'impression que l'histoire s'est arrêtée, que le déroulement habituel de la vie s'est arrêté. Quelquefois, on est physiquement arrêté. Rupture dans l'espace, puisqu'on est, souvent amené soit à être à l'hôpital, loin des siens, soit à être chez soi alors que tout le monde est au travail. Bref, on pourrait dire, on est délocalisé.
On est hors du temps.
On est hors du temps. Il n'y a pas longtemps, une revue m'a demandé de travailler sur m'imposant un thème de recherche pour un article. Et je trouve ça très intéressant, c'est la maladie comme exil. Et je trouve que c'est une manière de penser à la maladie qui n'est pas habituelle et qui m'intéresse bien. Dire quand on est malade, on est en exil parce qu'on est loin, on se sent loin, même si on est chez soi, même si on est avec ses proches, en fait, on se sent loin parce qu'il y a un troisième registre de rupture, d'éloignement, c'est le fait qu'on est en train de vivre une expérience qui est incommunicable. Enfin, qu'on a toujours l'impression qu'on parle plus tout à fait la même langue que les autres.
On part un peu en terre inconnue quand on est.
On est en terre inconnue et quand on essaye de dire ce qu'on est en train de vivre, bien souvent l'entourage ne comprend pas, même s'il est plein de bonne volonté, mais n'imagine pas ce qu'on est en train de vivre. Très souvent des maladies qui ne sont pas graves en elles-mêmes, du genre, je sais pas quoi, une fracture de col du fémur chez une personne âgée, c'est pas aujourd'hui, ça n'a rien de catastrophique. Mais cela dit, beaucoup de personnes âgées, quand elles se cassent un col du fémur, se mettent à penser à la mort et se disent, ça s'approche, quoi. Or, s'ils disent ça à leurs proches, ils me disent, mais non, mamie, tu t'es cassé un os, c'est pas la mort, etc. Et donc, tout le monde va dire, mais non. Alors que le fait que la personne qui est en train de penser à ça pense à la mort, ça ne veut pas dire qu'elle croit que son col du fémur va la conduire à la mort, mais simplement parce que symboliquement, elle se retrouve brutalement confrontée à quelque chose qui parle des limites de la vie, quoi. Et donc je crois que très souvent, les malades ont le sentiment de parler une langue qui n'est pas comprise par les autres.
Ce qui une fait langue aussi... inconnue un petit oui. peu. Il faut faire l'expérience de la maladie pour comprendre ce langage aussi un peu mystérieux et cette rupture avec le monde.
Et c'est ce qui fait le succès des associations de malades, en particulier les gens qui sont atteints de maladies rares. Quelquefois, ils éprouvent un soulagement considérable en adhérant à une association de malades ayant la même maladie, parce qu'ils disent, ça y est, enfin, je rencontre des gens qui parlent la même langue que moi. Alors là, ça fait un soulagement et en même temps, ça comporte un certain risque parce qu'il y a toujours le risque que la personne, à ce moment-là, fasse de sa maladie son identité.
Et son idole, quelque part.
Oui, ah, enfin, ouais. Idole au sens où ça absorbe tout. J'avais entendu parler d'une femme qui était atteinte d'une maladie rare et elle avait construit son adresse électronique pour ses mails. Son pseudo, si on peut dire, c'était le nom de sa maladie, quoi. Donc ça marquait que la maladie était devenue sa carte d'identité. Bon, et ça, c'est terrible.
Derrière ce poste radio, frère Jean-Marie Guelette, certains sont peut-être alités sur un lit d'hôpital, chez eux. Un mot peut-être pour chacun d'entre eux qui traversent et qui sont peut-être dans cette période aussi de terre inconnue avec un langage nouveau pour eux, période peut-être de colère, de confrontation, de peur aussi et puis d'angoisse. La maladie fait peur quand on est confronté. Et face à la maladie, frère Jean-Marie Guelette, il y a aussi cette traversée d'une grande solitude.
Bien sûr. Et puis le fait que... Moi, j'aurais tendance à penser que toute maladie nous parle de la mort. Ce qui ne veut pas dire que toute maladie conduit à la mort. Hein,
mais renvoie au questionnement.
Toute maladie, surtout aujourd'hui où on est tellement doué pour faire comme si non seulement la mort n'existait pas, mais on pourrait dire les limites n'existaient pas. Quoi. On vit à 100 à l'heure, on s'éclate, on se défonce, etc. Et tout d'un coup, la maladie nous arrête, nous oblige à ne plus bouger et nous dit un jour, ça sera fini. Quoi. Enfin, je crois que toute maladie dit ça. Pensez aux questions métaphysiques qu'on se pose quand on a une rage de dents. Quoi. C'est extraordinaire. Avoir mal aux dents, par définition, ça ne conduit pas à la mort. Or, si on a vraiment très mal aux dents, il y a un moment, on se dit mais la vie est insupportable. Enfin, c'est incroyable les questions dramatiques qu'on se pose alors que simplement on a mal aux dents. Donc, je crois que toute maladie parle de la mort. Toute maladie conduit en terre étrangère. Et donc, si on a quelque chose à tenter de dire à des personnes atteintes par la maladie, c'est vraiment ça, c'est de leur dire mais si vous avez l'impression d'être compris par personne, c'est pas parce que les gens autour de vous sont des brutes ou parce qu'ils comprennent rien, c'est parce que ça n'est pas compréhensible, ça n'est pas partageable.
Permettez-moi, l'entourage, les plus proches ne comprennent pas, voulant bien faire. On dit parfois à ce malade qui nous est si proche, tu vas aller mieux, tout ira bien, tu vas guérir.
Oui, bien sûr, on essaye de, enfin, sous prétexte de le consoler, je crois qu'on se console.
On se console et peut-être qu'on se rassure soi-même, au fond.
On se rassure, c'est ça. Mais donc, cette incompréhension, alors que ce soit avec les proches, que ce soit également avec les soignants, avec les médecins, etc., l'impression que tout d'un coup, il y a des. Moi, je parle une langue que plus personne ne comprend, que les médecins parlent une langue à laquelle je ne comprends rien, que mes proches me parlent de trucs qui sont complètement inadaptés. Enfin, bref. C'est des moments, en effet, comme vous le dites, de grande solitude, mais je suis assez convaincu que c'est inévitable, cela. Enfin, que ce n'est pas lié à la mauvaise volonté. Même si tout le monde est de très bonne volonté, y compris le malade, de toute façon, il y a quelque chose de l'ordre de la solitude et de l'incompréhension.
Donc, et un langage différent aussi bien donc, du malade avec ses plus proches, comme les soignants.
Oui, bien sûr, avec en plus le fait que le malade ne va pas parler la même langue suivant qu'il rencontre son médecin, l'infirmière, l'aide-soignante, l'aumônier de l'hôpital, son épouse,
etc. Et si ce malade est capable aussi, dans cette capacité aussi, de nommer et de parler ?
Oui, je pense que tout être humain est capable de parler à sa façon, mais il va pas parler de la même chose suivant les personnes qui le visitent, ça c'est sûr. Oui.
Merci, on se retrouve si vous le voulez bien dès demain, frère Jean-Marie Guelette, dans Des clés pour vivre à la même heure. À demain.
À demain.